Ce samedi soir, à l'Office culturel à Arras, se déroule une soirée slam, une scène ouverte à tous les textes. Cette soirée est organisée par les demandeurs d'asile, des résidents du CADA d'Arras. Rencontre avec deux d'entre eux, Mamadou Koulibaly, 36 ans, juriste de formation, il vient du Mali, et Platini, journaliste de formation, lui vient de RDC, la République démocratique du Congo. Tous deux sont au CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Arras, depuis 8 mois. Et avant de nous parler de la soirée slam de samedi, de leur vie au CADA, ils évoquent leur parcours, pourquoi ils ont dû fuir leur pays.
En fait, mon histoire elle est un peu longue. J'ai fui mon pays à la suite des événements du 22 mars 2012, parce que le Mali a subi un coup d'État. Et à la suite de ce coup d'État, comme mon oncle faisait partie d'un groupe armé qui s'appelle les Béreaux Rouges, ils ont tenté un contre-coup d'État le 1er avril. Et à la suite de ce contre-coup d'État qui n'a pas réussi malheureusement, il a disparu. Donc j'ai fait au départ des recherches pour en savoir où est-ce qu'il est au juste. Et malheureusement, j'ai pas eu de réponse ni aucune de ces traces. Donc j'ai décidé de créer une association. Le but de l'association était non seulement de défendre les militaires disparus, mais aussi de défendre tous les militaires qui ont été victimes des violences de la part des autorités militaires qui étaient en place en ce moment. Donc à la suite de la première réunion, en fait, j'ai été victime de perquisitions de la part des inconnus qui étaient armés. Ils ont perquisitionné ma maison deux fois. Et à la suite de ça, donc, j'ai dû quitter le pays.
Donc là, vous êtes arrivé déjà dans le Nord-Pas-de-Calais ?
Non, je suis arrivé en France ici le 7 octobre 2012. Et précisément à l'aéroport d'Orly, en provenance du Mali. On a fait escale seulement au Maroc et je suis arrivé en France le 7 octobre 2012. Donc premièrement, j'étais hébergé chez un Malien dont les conditions n'étaient pas aussi faciles. Et du coup, j'ai cherché un organisme qui s'appelle Qualia. Ils m'ont permis d'avoir d'abord mon premier récépissé à la préfecture de Bobigny. Et ils m'ont hébergé dans un centre d'accueil d'urgence à Bobigny, à Saint-Denis. C'est de là-bas que je suis venu au CADA d'Arras le 17 mai 2013.
Vous, monsieur Platini, donc autre pays, on peut dire en guerre aussi.
Mon pays est en guerre, oui, mais ce n'est pas tout le pays, c'est rien qu'en dans un coin, à l'est du pays, dans le Kivu. Et en fait, moi, c'est pas le problème de la guerre qui m'a amené ici en France. J'étais dans la presse écrite, dans un journal d'information générale, mais qui était par moments classé du côté de l'opposition, par le commun des mortels. Donc j'ai écrit pas mal d'articles qui dénonçaient les abus du pouvoir sur certains cadres de la mouvance présidentielle et de l'armée. Et c'est ce qui a fait que je suis interpellé, j'étais en rendez-vous, il y a des gens qui se sont passés pour du cadre d'une entreprise de la place qui m'ont fixé un rendez-vous comme quoi ils avaient envie de publier une information commerciale sur le colonne de notre journal. En allant au rendez-vous, j'ai vite remarqué que ce n'était pas les gens qu'ils prétendaient être, et c'était des agents de l'Agence nationale de renseignement. Chez nous, on appelle ça l'ANER. Et du coup, ils m'ont interrogé pendant au moins 4 heures. Ils voulaient savoir qui m'alimentait et qui était notre source d'information. Et je leur ai dit simplement que non, qu'il n'y avait aucune loi qui me contraignait à dévoiler mes sources. Ils n'ont pas cru, mais ils m'ont relâché plus tard pour me dire que non, me faire une mise en garde. Il faut sûr que je devrais servir ce qui créerait à l'avenir. J'ai fait simplement un rapport à ma rédaction, à mon éditeur et à mon directeur de publication. C'était passé après la mort de mon jumeau, parce que j'avais un jumeau qui était aussi journaliste, qui est mort d'une maladie, d'une courte maladie. Je devrais me rendre au Congo-Brazzaville, en face, pour rendre visite à mes parents en novembre 2012. Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, c'est à 5 minutes par canot rapide. Et à mon retour, il y avait un agent de la Direction générale des migrations, comme la police des frontières, qui avait retenu ma carte d'identité. Et en m'approchant vers lui pour vouloir en savoir plus, c'est comme cela qu'il m'a conduit dans son bureau. Et puis il avait passé un coup de fil. 3 personnes étaient venues. Et c'est comme cela qu'ils m'ont amené. J'étais séquestré pendant au moins 6 jours. jusqu'à ce que ma famille, mon éditeur et ma famille arrivent à me trouver où j'étais. Ils ont pu me faire évader d'abord du cachot où j'étais. Enfin, ce sont des cachots privés. Ce n'est pas des cachots normaux comme partout. C'est des services que le gouvernement ou soit les hommes forts du pouvoir utilisent pour vous passer sous silence, surtout les journalistes et les autres activistes des droits de l'homme. J'ai pu m'évader d'abord du cachot. Ma famille et toujours mon éditeur m'ont trouvé un moyen pour me faire sortir du pays.
Vous êtes arrivé aussi à l'aéroport de Paris ?
À Roissy, Charles de Gaulle, avec un passeur. C'est l'expression que j'ai apprise ici. Un passeur, un Indien, je crois, un Pakistanais comme ça, qui m'a amené. Je suis arrivé de Paris, directement à Arras. Quand je suis arrivé à la gare d'Arras, lui, il a continué, le monsieur. Il m'a demandé d'appeler le 115. Je ne savais pas encore c'était quoi le 115, je n'avais pas de téléphone. J'ai posé la question, si on pouvait m'indiquer de services sociaux. C'est comme cela qu'ils m'ont amené au SCAO. Et à partir du SCAO, ils m'ont construit un dossier. Et puis j'étais hébergé au Petit Artre pendant 2 mois et demi avant d'arriver sur CADA.
Un Petit Artre, donc c'est un centre d'accueil sans domicile fixe. Oui. Donc ici, vous êtes, c'est autre chose, un autre centre d'accueil de demandeurs d'asile. Comment vous avez vécu d'abord votre arrivée ici? Et puis comment ça se passe tous les jours ici?
Déjà, il faut dire que moi, par exemple, au Petit Artre, la vie était toute différente. Déjà, j'ai quitté mon pays sans le vouloir. Et j'étais déraciné de mon pays et séparé de mes proches. Il avait été très difficile. On devait se lever tout le matin pour faire le travail de ménage. J'étais pas sûr que j'avais vraiment un dossier qui était en cours d'évolution. Parce que personne ne vous informe de votre situation. Personne ne vous dit ce qui va arriver. C'est en avril qu'on m'a trouvé une place ici dans le CADA, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et c'est en avril que je suis arrivé ici. Au moins, ici, la vie a changé. Je me suis senti un peu dans les bonnes conditions, en sécurité.
Vous, comment vous vivez ici la vie au CADA?
Je dirais que je ne me plains pas ici. La vie au CADA, c'est ce qui me dérange un peu, c'est la longueur de la procédure de la demande d'asile. Sinon, la vie au CADA, en fait, je dirais que nous sommes bien traités. Parce que les responsables qui gèrent ces CADA, ils font de leur mieux pour nous mettre au moins à l'aise ou bien pour nous trouver peut-être de quoi se soulager, quoi. Mais il faut se dire que de quitter ton pays pour venir dans un autre pays, toujours les conditions ne sont pas faciles. Non seulement les conditions sociales et économiques, et puis je dirais même la séparation souvent brutale de ta famille à les causes qui ont fait que tu as dû quitter le pays de façon catastrophique. Souvent, c'est des circonstances qui ne sont pas du tout faciles à gérer psychologiquement.
Mamadou et Platini, demandeurs d'asile à Arras. On va écouter maintenant l'une des personnes qui les encadre, qui les aide au quotidien au sein du CADA à Arras.
Je suis Hassan, moniteur éducateur qui travaille ici au CADA auprès des demandeurs d'asile. Je travaille ici depuis octobre 2010. C'est la date à laquelle on a ouvert ce collectif qui accueille 30 hommes isolés et qui ont déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises.
À la base, l'ouverture du CADA à Arras, ça répondait aussi à un besoin. Il manque toujours de structures d'accueil pour les migrants et les demandeurs d'asile en France et dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Oui, tout à fait. Ça manque cruellement, effectivement, de dispositifs d'urgence pour pouvoir accueillir les personnes qui arrivent sur le territoire et qui souhaitent déposer une demande d'asile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de CADA, un dispositif spécifique à l'accueil des demandeurs d'asile, il est tellement saturé que d'autres dispositifs sont développés, tels que l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, qui lui-même est saturé. Donc on en arrive presque à accueillir des gens qui font une demande d'asile sur des dispositifs qui ne sont pas forcément adaptés à ces personnes. Je pense notamment à des centres d'accueil d'hébergement d'urgence, pour ne pas les nommer, le Petit Théâtre Arras par exemple, ou tous les dispositifs de ce genre-là sur le département, et de la même manière sur le national, c'est-à-dire que le problème n'est pas seulement départemental, il est effectivement national.
Comment vous les aidez ici finalement, parce qu'ils sont logés, donc il me semble qu'ils ont une petite allocation, pas le droit de travailler dans un premier temps, mais c'est ce que M. Platini et Mamadou nous disaient, il y a une souffrance psychologique due au déracinement.
Oui, en effet. Pour rappeler un petit peu les missions d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les objectifs principaux sont dans un premier temps l'aide à l'hébergement, Dans un second temps, la constitution du dossier d'asile, donc l'accompagnement administratif. Ensuite, l'aide sociale et médicale. Et cette partie qui est liée à la gestion de l'attente de ces personnes. C'est-à-dire, comme vous le dites, ces gens, lors de leur procédure, pendant leur procédure, ils n'ont pas d'autorisation de travail ni d'accès à la formation. Donc là, oui, effectivement, il y a un enjeu auprès des travailleurs sociaux. C'est de pouvoir aménager des temps, aménager des ateliers, des projets qui vont répondre à cette problématique liée à l'attente. Non pas l'attente d'une réponse, mais cette attente où les gens se retrouvent dans une situation où finalement ils ne peuvent pas se projeter, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun objectif, hormis de pouvoir peut-être recommencer leur vie à l'issue de la procédure de demande d'asile. Donc nous, on intervient plus à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux donc, sur tout cet aspect psychologique, tout ce que leur histoire, leur vécu a pu provoquer. Tout ce que le parcours, on le sait, hein, ça s'est médiatisé de plus en plus. Hein, les gens qui fuient leur pays et qu'on retrouve dans des drames tels que Lampedusa, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais c'était vraiment une situation qui n'était pas exceptionnelle. C'est des choses qui arrivent régulièrement au travers des histoires des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, c'est tout un parcours, c'est toute une aventure pour ces gens de quitter leur pays et arriver ici en France. Et tout cela, ça peut créer des traumas. Ça, psychologiquement, ces gens-là sont en difficulté. Au-delà de ça, une fois arrivés sur nos dispositifs, on constate également que cette attente est très néfaste pour ces gens. C'est-à-dire que sur un plan dignité, ces gens se retrouvent dans une situation où on ne peut pas travailler, on ne peut pas accéder à la formation. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le matin, si on se lève pour finalement aucun objectif dans la journée, on n'a pas intérêt à se lever. Entre leur arrivée en CADA et leur sortie du CADA, on essaie de faire en sorte que ce temps ne soit pas perdu, que ce temps leur ait permis d'acquérir les connaissances sur le fonctionnement administratif, par exemple, à qui s'adresser lorsqu'on a tel ou tel problème, à qui s'adresser pour telle demande ou tel formulaire. C'est des choses qui sont très compliquées. Nous, ici, on a déjà pas mal de difficultés avec l'administration française. Alors, imaginons un petit peu ces gens qui arrivent dans un monde où c'est radicalement différent. Donc on les accompagne dans cette démarche et on les accompagne aussi sur les bases. C'est-à-dire que l'intégration en France ne peut pas passer sans la maîtrise de la langue, par exemple. Donc là, on a pas mal de bénévoles qui interviennent. En l'occurrence aussi, une éducatrice, une collègue, Madame David, qui propose aussi des cours de français. Et donc voilà, tous les gens ici ont cette opportunité de pouvoir déjà dans un premier temps apprendre le français et être autonome au maximum.
On arrive maintenant à la soirée SLAM qui est organisée par les demandeurs d'asile du CADA. Ça se passe donc ce samedi à l'Office culturel à Arras. C'est une soirée festive dont le but est de soutenir un projet de rénovation de château dans l'Aveyron. On écoute à ce propos Hassen et on entendra ensuite à nouveau Mamadou et Platini.
On a un projet qu'on avait mis en place en octobre 2012 qui consistait à travailler en lien avec l'association Rempart, donc dans l'Aveyron, plus principalement à Espalion, donc une association de sauvegarde du patrimoine forcé, et ils avaient pour mission de restaurer le château de Calmont-Dolt. Donc en partenariat avec eux, on est parti avec un groupe de 7 résidents de manière bénévole pour intervenir et donc restaurer ce château. Pour l'imaginer, pour le visualiser, c'est un château médiéval qui est totalement en ruine, hein, qui reste plus grand chose, où il faut dégager des amas de terre pour pouvoir lui redonner l'aspect qu'il avait d'antan. C'est une ruine, c'est les murs, les remparts qui sont tombés, les tours qui sont tombées, le donjon qui est à refaire, qui est à restaurer entièrement. C'est également un site archéologique, c'est-à-dire que toute cette terre qui a dégagé ne se fait pas à la pelle juste pour la dégager. On est très prudent afin d'y retrouver les vestiges qui sont enfouis derrière. En l'occurrence, lorsqu'on y est allé, il y avait une session où on devait déblayer, qui était au pied du donjon. On voulait absolument récupérer les vestiges, les pierres, les petites particularités qui composaient le donjon et qui apparemment, selon les archéologues, selon les personnes qui travaillent sur le site, avaient supposé qu'ils étaient tombés à l'endroit où on déblayait. Donc c'était tout ce travail minutieux, long, pénible parfois, dans lequel les résidents s'investissaient. Ce qu'on propose au travers de ce projet, c'est une possibilité pour les personnes qui sont intéressées de se projeter vers un objectif à moyen court terme. La grande difficulté que ces gens rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif, hormis la réponse des administrations françaises. Ils n'ont pas de choses auxquelles se raccrocher concrètement. Et ce projet avait pour vocation de permettre à ces gens de s'investir. En l'occurrence, là, on met en place un projet d'auto-subvention pour réaliser le projet final de se rendre à Calmont, qui est d'organiser une soirée slam. C'est le genre de projet qu'on organise, où on va essayer de permettre à ces gens d'être acteurs d'un projet.
Moi, je vois personnellement dans l'organisation de cette soirée beaucoup de côtés positifs. Non seulement ça nous permet d'être en contact avec la population d'Arras et discuter avec eux également. Non seulement ça nous permet de se distraire, mais aussi d'oublier beaucoup de problèmes.
Quand on arrive ici, on a toujours besoin, on a cette envie-là, et surtout quand on était en activité régulière, de là où nous venons, on a cette envie-là de s'occuper à faire quelque chose. Et comme dans la soirée du 25, on essaie de responsabiliser le résident et il y aura la vente et la gestion de la caisse pour la vente de la boisson. Et c'est les résidents qui vont s'en occuper. Et on s'y sent utile parce qu'on est intéressé à participer dans l'organisation.
Vous participerez à l'organisation, mais les slam sessions, donc c'est des scènes ouvertes à tous les textes, tous les poèmes. Est-ce que vous allez faire un texte alors?
Là, on l'a proposé, parce que les slams, c'est pas tout le monde qui le fait. Avec les histoires des rimes, être poète, c'est pas facile. Mais on nous a proposé, on nous a dit que même des amateurs pouvaient faire un texte, écrire un texte et puis le réciter. Donc là, on verra, il y a des gens qui ont inscrit dans ces sens pour faire des textes et les réciter.
Les éducateurs peut-être aussi ?
Les éducateurs peut-être aussi. Pour ma part, je ne suis pas assez habile avec les mots pour pouvoir intervenir. Ensuite, s'il fallait effectivement prendre la parole et réciter un poème qui ne serait pas le mien, pourquoi pas ? Ce serait un exercice, je pense, comique. Mais pour revenir sur la thématique, le slam, pour avoir assisté à quelques soirées autour du slam, je trouve ça intéressant justement que des demandeurs d'asile, des personnes qui arrivent sur les territoires français, qui ont cet objectif d'acquérir la langue française, de découvrir le patrimoine français, d'être confrontés au slam pour avoir vu certains slameurs, cette habileté de jongler avec les mots, avec cette richesse, ce vocabulaire, je trouve ça quelque part un petit clin d'œil à la langue française. Je trouve ça très 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 intéressant.
Hassen Platini et Mamadou Koulibaly étaient au micro de Radio PFM hier après-midi dans les locaux du CADA à la résidence Saint-Paul à Arras. On vous rappelle donc le rendez-vous de cette soirée slam organisée par le CADA, l'ARJA et aussi l'association Colère du Présent. C'est ce samedi 25 janvier à 19h30. Ça se passe à l'Office culturel au 61 Grand Place à Arras. L'entrée est à prix libre, restauration et buvette sur place. Sur scène, Thomas et Nancy Sistadré, Terrancien, la compagnie de la Colombine. Et puis tout le monde est invité à partager textes, rap, slam, récitation. Donc vraiment tous les textes sont les bienvenus.
Nitarakaeva ikamode nukune Nitarakaeva ikamode nukune taraka eva e kandanya malufune ni taraka eva e kandanya malufune ni taraka eva e kamonde nufune ni taraka eva e kandenu fune Nitarakaiba ikamode nufune Nitarakaiba ikamode nufune